Héro Tourisme vous invite à la découverte des podcasts de Le Nautour de l'Héro.
Bonjour les amis, vous connaissez Le Nautour de l'Héro ? C'est de Le Nautourisme grand format. Rencontres gourmandes, artisans vignerons, caveaux étapes, patrimoine séculaire et des aventures. À pied, ce sont les honorando, à vélo, les honovélos. Plutôt alléchant, non ? Et pour décor, l'Héro compte 7 destinations vignobles et découvertes. Une assurance de qualité et d'accueil professionnel sur tout le département. Bienvenue dans ces podcasts où nous allons à la rencontre de ceux qui en parlent le mieux. Aujourd'hui, nous sommes sur la destination vignoble découverte Terre de Garrigues en Pic-Saint-Loup. Et je suis à côté de Lionel Martinez. Merci Lionel. Pourquoi je te dis merci à ton avis ?
Je sais pas, tu vas m'expliquer.
Alors je vais te le dire. Merci d'avoir choisi pour parler de cette destination, le lieu où nous sommes, qui est magique. Alors, tu peux nous le raconter ce lieu ? Tu peux nous dire où nous sommes ? Tu peux nous en donner un peu les clés ?
Oui, moi je peux vous parler du lieu, du choix du lieu.
Tu vas me tutoyer. Hein.
Oui, bien sûr.
Ouais, voilà,
mais il n'y a pas de problème, ouais. je vais te tutoyer.
Super.
Avec grand plaisir en plus. j'ai une culture du tutoiement assez facile, tu vas voir. Du coup, oui, on est en l'église d'Alérac, qui est un endroit que j'adore, en Pic-Saint-Loup, parce qu'elle réunit tout ce qui me plaît, à la fois un joli paysage, un patrimoine incroyable, qui appelle un peu au mystère et au questionnement. Pourquoi ça, au milieu de cet endroit, au milieu des vignes, qui sont une symbolique forte, à la fois de la destination que tu as évoquée, mais également de tout notre Languedoc et Occitanie qu'on adore. Et en fait, derrière, on a des platanes, c'est un endroit où on a de l'ombre également ici où peut faire très très chaud. Et donc je parcours régulièrement ces sentiers, à la fois au départ je les ai découverts surtout en tant que cyclotouriste dans ma vie d'avant, et surtout après je suis devenu guide de randonnée en trottinette électrique tout terrain parce que je voulais mettre en valeur tout ça au plus grand nombre, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent le coin mais qui connaissent pas forcément toutes ces petites pépites.
C'est une chapelle romane, je le précise, elle est pas gigantesque mais elle a un charme incroyable parce qu'elle est au mi-temps d'une mer de vignes avec une vue sur des petites collines sur notre gauche, enfin en fonction du lieu où on se situe pour raconter cette église, et puis en face quand même quelque chose qui est un peu symbolique, je crois, de
et
la
voilà,
destination.
J'y viens. En effet, on est au cœur, on voit le Pic Saint-Loup, on devine à travers les arbres ce joli plateau de l'Ortus qui se font face. Et en effet, donc c'est sur ce lieu, il y a, je pense, le résumé de tout ce qui représente ce territoire. À la fois des histoires un peu cachées, on a aussi, tu as oublié de le préciser, mais il y a un petit cimetière aussi qui est juste attenant à la chapelle. Tout ça, voilà, ça évoque pour moi le voyage, ça évoque la découverte, ça évoque souvent aussi les rencontres, parce qu'on a l'impression d'être au milieu de nulle part, mais en réalité on croise souvent des gens, et tout principalement les viticulteurs, puisqu'on est vraiment au cœur de domaines viticoles de prestige. Et voilà pourquoi ce site pour moi est aussi évocateur. Je viens souvent faire une pause ici à l'ombre l'été quand je suis en randonnée avec mes clients, parce que ça les apaise, moi ça m'apaise aussi, et surtout on profite de l'ombre de ces grands platanes installés ici il y a déjà un petit moment, je pense.
Alors tu es spécialiste de la randonnée?
Alors plus particulièrement en trottinette électrique tout terrain.
Ah oui. Et est-ce qu'ici on est au départ de certaines aventures que tu proposes?
On n'est pas au départ, on est dans un lieu de passage clé, en fait, emblématique. On travaille, nous, principalement en étant au départ des domaines viticoles, puisque le choix qui a été le mien dans l'activité que je propose, c'est de travailler en grande majorité au service des domaines viticoles pour faire le lien entre le terroir et le vin. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde sait plutôt facilement accéder au vin, accéder au terroir en ayant aussi les explications de pourquoi ce terroir est particulier et comment le domaine viticole met en valeur à la fois son éthique au travail, sa culture, son histoire familiale ou pas. Ça se fait sur le terrain, ça se voit sur le terrain avec ces spécificités-là. Et c'est la force des trottinettes électriques tout terrain, c'est qu'elles permettent vraiment de passer partout, même si le niveau des pratiquants n'est pas acquis en hors chemin, on va dire, parce que c'est un équilibre qui est debout, donc c'est un équilibre qui est naturel, et que s'il y a un petit quelque chose qui inquiète, il suffit de mettre le pied au sol et ça passe.
D'accord, on n'y pense pas immédiatement, hein, à la trottinette électrique, je le confesse un peu. Dis-moi, sur ces rencontres dans les vignobles, avec les vignerons, est-ce qu'il y a chaque fois une histoire qui va être singulière? Est-ce que chaque fois, c'est un rendez-vous dont on peut dire qu'il est fort en émotion ou que sais-je?
À force des vignerons, c'est qu'ils sont nombreux, mais il n'y en a pas un qui est pareil. Et pourtant, ils font le même travail. Bien sûr, ils ont un rapport charnel, sentimental, parfois patrimonial aussi, avec leur manière de travailler. Il y a aussi des gens qui sont dans un rapport beaucoup plus économique, d'une manière générale, dans leur approche de métier. Mais nous, on affectionne particulièrement les histoires plus particulières, plus spécifiques, où justement la rencontre de celui qui ne sait pas ne leur fait pas peur, et où ils sont là pour transmettre quelque part leur passion, leur manière aussi un peu de voir le monde, qui en fait une manière un peu à long terme, parce qu'en réalité la vigne, on fait de la vigne depuis plus de 2000 ans, c'est un vieux métier. J'espère qu'on va continuer à en faire encore pendant beaucoup plus. Et spécifiquement, des fois, les vignerons peuvent être un peu techniques et ça empêche parfois un peu les échanges. Donc, on essaie de trouver des gens qui arrivent à transporter les clients qu'on leur amène dans leur dimension à eux.
Le patrimoine viticole ici, en termes de bâti, on est sur des siècles d'histoire, on est sur des siècles plus récents, enfin une histoire plus récente. Quelle est sa personnalité?
En fait, ce qui est très particulier, que j'aime énormément dans le Pic Saint-Loup, c'est qu'au départ, le Pic Saint-Loup ne fait pas de vin. Au départ, le Pic Saint-Loup, c'est une terre d'agropastoralisme. Donc en fait, ce sont des terres qui sont très dures, et c'est parce qu'il y a eu du travail entre l'homme et les bêtes qu'on a pu créer des paysages, et qu'ensuite, de manière plus contemporaine, on va dire plus récente, on a vu dans le Pic Saint-Loup, dans cette imagerie, dans ce paysage qu'on a décrit au début, un fort potentiel pour le vin à l'époque où les machines ont pu rentrer en compte, à la fameuse révolution industrielle, parce que c'est des terrains qui sont quand même très durs à travailler.
Donc le patrimoine est contemporain de ce moment de bascule entre le mouton et
c'est ça, c'est pour ça qu'on va souvent trouver énormément de bergeries.
De dry peut-être aussi.
Exactement, des dry, ces fameux chemins de laine qu'on appelle également, qui ensuite sont devenus des fois des chemins de vignerons ou pas. Donc en fait, quand ils sont restés tout étroits, c'est la force de la trotte, c'est qu'on y passe quand même.
Ah voilà, j'allais le dire, voilà, génial pour la trotte.
On a cette chance-là.
Pour y trotter d'ailleurs, tout court.
Ouais, on peut y trotter, on peut trotter. On peut être trotteur, enfin, y a plein de sémantiques qui se sont développées. L'Académie française n'est pas encore penchée sur quel nom choisir. Mais oui, on va croiser tout ça, on va croiser aussi des métiers atypiques, spécifiques de nos forêts méditerranéennes, comme les charbonnières. Ici, on est dans un site où pas très loin, il y a une très grande charbonnière. Donc c'était des familles de nomades qui se déplaçaient pour créer du charbon et avoir une matière première qui soit très puissante au feu, à la fois pour se chauffer, pour des usages domestiques, mais aussi parce qu'il y a toute une histoire autour de la verrerie aussi
On est à côté de la verrerie. Il y a un très joli village.
Oui, Ferrières-les-Verrières.
Par exemple.
Entre autres.
Éclairé.
J'allais y venir, mais voilà. Ils sont intimement liés en fait. Voilà, on a un peu eu tendance à oublier le plateau de l'Ortus, qui est un grand désert en fait. Il est indissociable de la partie basse en fait. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des très grandes variations de paysages, très grandes variations de lieux de vie en fait. C'était pas pareil de vivre sur le plateau que de vivre en bas. En bas, on était un peu plus connecté au monde. Sur le plateau, c'était un peu plus différent. Mais pendant longtemps, notamment grâce aux bourgeois verriers, c'est cette caste un peu particulière, le Pic Saint-Loup a pu rayonner à travers, a priori, toute l'Europe, puisque dans certains écrits, quand on va au musée de la verrerie, qui est très, très bien fait à Clarée, à voir absolument pour tous les âges, on était parfois en référence avec les verriers de Venise. Oh, c'est quand même pas rien au Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, je pense. Mais ce patrimoine-là est présent, il est accessible, il est justement le musée de la verrerie à Clarée, il est top. Et puis après, il y a tout un chemin de verrier qui existe, qui est plutôt balisé sur la route, mais nous, on essaie de le prendre par des chemins pas sur toute la longueur parce qu'il est relativement long, il va quasiment jusqu'à Sommières. Et nous, on essaye de faire des incursions comme ça dans l'histoire à travers le patrimoine visible ou parfois un peu plus caché, parce que la végétation a fait son travail parfois et est venue englober des vieilles drailles ou des vieilles bergeries. Mais du coup, c'est quand même évocateur de quelque chose, quoi.
C'est très vert. Oui. Alors c'est très vert quand c'est l'automne, tant que c'est vert, et puis après ça deviendra un peu orange, mais il y a quand même des chênes à feuilles persistantes, donc il y a à la fois après des nuances un peu particulières qui...
Je suis un amoureux de mon pays, donc forcément ce que j'adore chez nous, et ici c'est tout aussi vrai qu'à quelques kilomètres, c'est qu'on a une palette de couleurs au gré des saisons qui sont magiques.
Oui, parce que l'hiver, on pourrait dire oh non, écoutez, un pays de vignes, l'hiver, qu'est-ce que je vais aller faire?
Ah non, justement, les paysages, chaque saison est marquée par un paysage très différent. Ouais, justement, et la vigne est le représentant de cette saisonnalité chez nous. C'est-à-dire que quand les feuilles sont très vertes, ben on sait qu'on est dans l'été. Quand on voit sortir les grappes, on sait qu'on s'approche de l'automne. Quand les feuilles tombent, on sent que le froid va arriver. Et quand à l'inverse, il y a la renaissance du printemps, on voit les premiers bourgeons et les premières repousses de feuilles, on est content de se dire, tiens, on va vers les beaux jours. Et
mais les aventures en janvier, par exemple, en décembre, à pied, à cheval, à mobilette, non pas à mobilette,
en trottinette.
En trottinette.
Électrique tout à l'heure. Parce que l'avantage de l'électrique.
On oublie le moteur.
Alors on a un moteur, mais il est électrique.
Oui, oui, voilà.
Mais sa grande force, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Donc on a accès aussi à la faune. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on est en thermique. En thermique, dès qu'on va faire du bruit quelque part, la faune va être alertée, donc elle va s'éveiller, elle va s'échapper.
Alors quelle faune peut-on rencontrer?
Alors, très classiquement, on va avoir tout ce qui est faisans, perdreaux, perdrix, bien évidemment également les rapaces, toutes sortes de rapaces, faucons, aigles. On a parfois la chance d'apercevoir les aigles de Bonelli, qui sont une espèce grandement protégée, mais plutôt du côté du piège des Mourgues, donc c'est quand même chouette aussi. Les buses communes, bien évidemment, et ensuite, un peu plus tard dans la soirée, parce que ça nous arrive de faire des nocturnes, on a déjà croisé des belles hordes de sangliers, un peu impressionnants, des renards forcément. Donc et ensuite, on les voit moins, mais on les entend, tous les animaux nocturnes, puisque quand on fait l'été qui fait chaud, on essaie d'éveiller les sens différemment à travers des randonnées nocturnes. Et là, on va plutôt avoir tout ce qui est les rapaces nocturnes, les chouettes, les ducs. On va aussi voir les fameuses pipistrelles que j'aime beaucoup, puisqu'elles sont des chasseurs naturels du moustique qui nous embêtent l'été. Et voilà, donc c'est assez varié, mais ça va dépendre des saisons aussi. Voilà.
On est en Pic Saint-Loup. Alors, pour les Montpellierins, hein, et puis peut-être pour ceux qui viennent de beaucoup plus loin, le Pic Saint-Loup, il faut y aller. Peut-être même faut-il s'y précipiter. Mais à t'écouter, j'ai le sentiment que toi, tu dis... autour du Pic Saint-Loup, il y a des secrets qu'il ne faut surtout pas rater. Tu es en train de dire que ce n'est pas nécessairement la chose à faire dans l'immédiat, mais qu'aller à la rencontre d'autres choses, ça vaut le coup d'œil.
Moi, je suis de ceux qui pensent que pour savoir où on va et savoir d'où on vient. Le Pic Saint-Loup, il est là depuis très longtemps, et l'Ortus aussi, ils se font face, ils ont des histoires géologiques différentes. On va pas faire un cours sur l'histoire de la géologie, je pense que c'est pas ça qui est intéressant. C'est un repère par contre, celui-là c'est un repère indéniable, donc on a besoin de le voir pour être assuré. Et le Montpellier encore plus que tous les autres. Et bien évidemment, les gens qui habitent le terroir, ils ont besoin de leur Pic Saint-Loup. Mais l'histoire des gens qui ont fait les civilisations ici, elle ne se trouve pas au Pic Saint-Loup. Parce que, comme j'expliquais, c'était un grand désert, il n'y avait pas d'eau. Donc, aller monter ce pic il y a 100 ou 150 ans, c'était de manière très exceptionnelle. Ce n'était pas quelque chose qu'on faisait de manière courante. On vivait de manière courante en garrigue, en terre de garrigue. Là, c'était vivrier et c'est là que, pour moi, ça a du sens. Parce que derrière, si on comprend comment ont été faits les paysages, et les paysages sont faits grâce aux paysans, moi j'aime bien souvent les appeler les faiseurs de pays, parce que tout ce que l'on voit ici autour de nous, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu la main de l'homme, associée à la main à l'animal, qui a permis que ces paysages soient ouverts et la diversité que l'on voit là.
Et cette diversité donne, il faut le dire un peu, parmi les crus les plus fameux du Languedoc.
Bien sûr.
Ah oui.
Là, il y a eu un vrai parti pris des pionniers du vin en Pic Saint-Loup qui ont vraiment cru en ce terroir, qui avait quand même des sujets complexes à traiter. des parcelles pas facilement accessibles, etc. Et ils ont vraiment utilisé la dernière révolution dans le monde du vin qui a été l'œnologie. Ils se sont vraiment basés sur cet art de l'œnologie qui est assez récent, après-guerre. Pour vraiment partir sur une stratégie de vin de qualité et avec une vraie vision au long terme et viser du cru et du grand cru.
On a des grands crus et des grands noms. On ne va pas les citer parce que, voilà, allez sur le site internet de la destination et vous les trouverez, je crois, sans difficulté. On dit des grands noms parce que ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire d'homme derrière, une histoire de passion, une histoire
de femmes. N'oubliez pas les femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont incroyables aujourd'hui dans le monde de la vigne et elles y sont aussi pour beaucoup dans cette révolution du vin de plaisir et de loisir parce que y a une sensibilité qui est différente.
Bon. Quel serait le parcours idéal pour en une journée, je veux dire ça, en une journée, être, je dis pas certain, mais d'avoir vraiment ressenti cette destination. Est-ce qu'il y a un parcours un peu idéal que vous proposeriez ?
Le parcours idéal, c'est de à la fois être du côté où l'on est, côté Chapelle d'Alérac, avec toute cette plaine, avec une visibilité incroyable sur le Pic et l'Ortus, et passer la colline pour aller aussi graviter du côté de Claret, Valflonès, jusqu'à Saint-Mathieu-de-Tréviers, parce qu'il y a une vraie diversité de terroirs entre ces deux espaces. Passer des collines permet d'avoir des points de vue, c'est important. Et du coup, sur la journée, forcément, une pause pique-nique se serait imposée à l'église d'Alérac et pique-nique terroir, bien sûr.
Alors, pique-nique terroir, le plus terroir possible, c'est quoi ?
Ah ben, ça va être à base de terrine, de charcuterie locale. On va forcément aller chercher du chèvre, puisque ici on a aussi des grands fromages. On a quand même des très belles appellations de fromage. Et puis on agrémenterait tout ça d'une belle bouteille de vin.
Lionel, tu m'as convaincu.
Je suis ravi.
On va essayer de déboucher une bouteille et de trouver du fromage, voire de la charcuterie et profiter de ce moment de grâce devant la chapelle d'Alérac où tu nous as conviés. Et vraiment, c'était un moment très sympa en ta compagnie. Merci encore, Lionel.
Moment partagé.
Un podcast réalisé par Black Pepper Productions et produit par Hero Tourisme. Présentation Jean-François Pouget. Coordination David Kefelek.